Chapitre 8. Jour 25. Tokyo, c'est loin. À l'issue d'une nuit sans sommeil, j'ai fait ma valise et réservé un billet hors de prix pour Tokyo. Il ne restait plus que la classe à faire, mais au vu des dernières nouvelles de mon avocat sur l'évolution de la négociation avec Hégémonie, j'aurais même pu me payer la première classe. Je suis passée dire au revoir à Louis, et je lui ai expliqué le projet fou qui s'était dessiné dans mon esprit. Louis était toujours aussi beau, aussi calme, aussi serein, aussi immobile. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Je connais par cœur mon fils, et depuis qu'il est sur ce lit d'hôpital, rien dans son visage ne m'est étranger. Je pourrais réciter son nez délicat, la naissance de ses cheveux, ses paupières si fines, ses sourcils que je remets en ordre à chaque toilette qui lui est administrée. Après la description enflammée de mes prochaines semaines, mon cœur s'est serré et emballé à la fois. Au coin de l'œil droit de Louis, une larme s'est formée, puis a coulé le long de sa tempe. Louis a pleuré, j'en suis certaine. J'ai senti mon cœur cogner et j'ai poussé un cri, provoquant l'irruption de deux infirmières. J'ai voulu leur faire partager mon enthousiasme, les prendre à témoin. Quelque chose venait de se produire sur le visage de mon fils. Mais le soufflet est retombé. L'une des infirmières, une de celles que je n'aime pas et dont je ne retiens ni le nom ni l'apparence, je me surprends à chaque fois à me demander de qui il s'agit avant de la reconnaître, m'a rétorqué assez sèchement que ce genre de choses arrivait parfois, que ça n'était certainement pas une larme, mais peut-être un peu d'eau qui restait sur une paupière encore mouillée, car la toilette n'était pas si lointaine, et que s'il s'agissait d'une sécrétion, cela ne voulait rien dire. Tous les paramètres de votre fils sont stables, je suis désolée, madame. Je me suis assise et j'ai regardé Louis fixement, attendant la suite. Pleure, s'il te plaît, mon amour. Montre-leur que je ne suis pas folle, montre-leur que tu te bats. J'ai tellement souhaité qu'il se réveille. Tant qu'un gramme d'oxygène circulera dans mes poumons et dans les siens, je suis décidée à me battre. J'ai pris cette décision irrévocable le lendemain de l'annonce faite par le docteur Beaugrand. Au fond, cette décision avait toujours été là, en moi depuis l'accident. Mais j'ai dû être secouée par ma propre mère et surtout par ce décompte de jours sinistres pour qu'elle m'apparaisse comme une évidence. Il a fallu que j'abandonne mes auto-lamentations et mes auto-flagellations pour pouvoir regarder l'espoir en face et ne plus le lâcher. Ce mardi 24 janvier, j'ai rejoint l'hôpital dès l'aube et passé un pacte avec Sophie Davant. Elle m'a écoutée religieusement tout en me regardant comme si j'étais une extraterrestre. Puis elle a éclaté de rire en me disant que mon idée était géniale et que oui, bien sûr, elle m'aiderait autant qu'elle le pourrait. Je l'ai serrée dans mes bras. Ça l'a surprise, mais elle s'est laissée faire. Elle m'a demandé si elle pouvait en parler à d'autres infirmières, notamment à sa copine qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Catherine Laborde. Ça ne s'invente pas. J'ai accepté tout en me disant que cette entente entre TF1 et France Télévisions était de bon augure pour mon projet qui contenait, somme toute, une importante part audiovisuelle. J'avais fourré dans mon sac à main la mini-caméra d'action de Louis, dont je comptais éplucher la notice d'utilisation dans l'avion pour Tokyo. Tokyo, c'est loin. Et le vol de 12 heures allait me laisser le temps de devenir une caméra-woman professionnelle. C'était du moins ce que je me disais à ce moment-là, bien peu consciente de ma nullité crasse en matière de montage filmique. À 20h35, à quelques mètres de l'avion, j'hésitais encore sur la conduite à tenir. Bien sûr, j'étais convaincue du bien fondé de la mission que je venais de m'attribuer. Bien sûr, j'étais excitée par ce qui m'attendait, par le voyage physique autant qu'émotionnel qui s'ouvrait à moi. Bien sûr, je savais aussi que ma mère serait présente pour mon fils. Mais ne plus pouvoir le toucher, l'embrasser durant ces quelques jours me semblait une épreuve terrible. J'étais très anxieuse à l'idée que son état ne se dégrade pendant mon absence. Maman, qui depuis quelques jours ne me lâchait pas d'une semelle, avait bien senti ma fébrilité, mais j'étais parvenue à lui cacher ma découverte et ma décision. Rien ne m'horrifiait plus que la perspective d'avoir un chaperon qui m'aurait suivi comme mon ombre. J'ai attendu le dernier appel pour l'embarquement, j'ai vérifié que j'avais bien avec moi le précieux petit carnet, ouvrant mon sac à main et caressant la couverture plastifiée à la gloire de Neymar, et je me suis finalement dirigée vers l'hôtesse de l'air. Grande respiration. Grand sourire, installation siège 6A. Hallucination sur la taille du siège. Incompréhension sur le mécanisme permettant de s'allonger. C'était la première fois que je voyageais en business class. Petite serviette chaude, sourire affable du personnel de bord, verre de champagne auquel je pouvais succomber sans subir les reproches de ma mère. Qui me faisait vivre un enfer nutritionnel incluant l'absence totale d'alcool depuis qu'elle m'avait ramassé à la petite cuillère le soir de l'annonce du docteur Beaugrand. Agréable sentiment de me faire chouchouter. J'étais bien. Juste bien. Ça ne m'était pas arrivé depuis 17 jours. Non, depuis beaucoup plus longtemps, à la réflexion. J'ai levé mon verre. À tes rêves, mon fils.